Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Bonsoir à tous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et voilà, bonsoir à tous. Je disais, merci pour votre présence. Et voilà, nous allons, sans plus tarder, continuer avec notre étude biblique. Et Dieu est bon pour nous et il nous accorde la vie, la santé. Et nous ne pouvons que dire merci à vous tous qui êtes présents en ces lieux ce soir et tous ceux qui nous suivent de façon connectée. Certes, le climat, il est assez changeant. Mais nous bénissons le Seigneur pour votre bravoure. Et alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre enseignement. Il est temps pour moi de... Merci. Merci, maman. Il est temps pour moi de... Voilà, de mettre en place certaines choses. Alors, comme vous le savez, vous tous, nous avons commencé notre enseignement, notre étude biblique. Qui a pour thème les défis d'un héritier. Amen. Défis d'un héritier. Mais d'association et procrastination. Donc nous allons encore aujourd'hui entamer la deuxième partie. Parce que le mercredi écoulé avant Métanoïa, nous avons commencé la première partie. Nous avons normalement quatre parties. Alors aujourd'hui, on va faire un effort de finir la deuxième partie. Et le mercredi prochain, Dieu aidant, nous pourrons prendre les deux autres parties. Avant tout, je veux prier. Précieux Père, merci Seigneur pour ta grâce. Depuis ce matin, tu nous as protégés, tu m'as protégé. Seigneur, mon Dieu, j'étais sorti, mon Dieu, le transport. Tout ce que j'ai pu faire, Seigneur, était sous ton contrôle. Merci, Seigneur, de me permettre de me retrouver ce soir encore dans ta maison, afin d'échanger avec ton peuple. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Merci au pasteur, merci à tous les responsables encore pour cette opportunité qui nous est accordée. Alors, sans plus tarder, si la communication est avec moi, donc... voilà, j'ai ri un peu la réaction de ma sœur Kétia. D'accord. Alors, on va faire avec. Donc, nous avons donné notre plan d'étude qui était normalement définition des concepts. Deuxième point, on s'était dit que nous devons traiter les conditions d'une bonne mère d'association. Troisième contexte, troisième chapitre ou bien troisième point, nous devons voir les enjeux de la procrastination. Quatrième point, nous devons traiter ou évaluer l'influence de la procrastination sur la mère d'association. Alors, nous avons donné deux passages de base la fois dernière, qui étaient Actes chapitre 2, le 42e verset, Ecclésiaste chapitre 11, le 6e verset. Donc, j'aurais besoin d'un bien-aimé pour lire pour nous. Ouais, voilà. Parce que je ne sais pas bouger. Faire de tout à la fois. Est-ce que vous pouvez nous aider à lire Actes chapitre 2, le 42e verset? Merci, sœur Gloria. Oui, juste là. Et puis pour lire pour nous Ecclésiaste chapitre 11, le 6e verset. Si vous trouvez pour nous, aidez-nous. Ecclésiaste 11, 6. Oui, s'il te plaît. Ecclésiaste 11, chapitre 6. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6 plutôt. Ah, il est là. Maintenant, vas-y, vas-y, tu peux lire.
Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on s'élève au bruit de la meule, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ.
Mm-hmm. Je crois que en 6, ça doit être dès le matin. En 6, hein?
Ah, okay. Oui. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons.
Amen. Merci beaucoup. Alors, donc, du coup, on va, à travers ces deux passages qui vont nous servir un peu de fil conducteur, nous allons essayer d'évoluer au travers de notre étude biblique. Alors, juste pour rappel, on s'était dit, nous parlons des défis d'un héritier. Nous le savons tous en fonction du thème de notre année que nous sommes héritiers et nous sommes co-héritiers en Christ, avec Christ. Alors, lorsqu'on parle des défis, nous avons défini défis comme étant les défis se réfèrent à des situations ou des circonstances difficiles, complexe. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du défi, nous nous référons à toutes ces situations qui peuvent nous arriver dans notre vie, dans notre marche, dans notre parcours. C'est comme ça que nous parlons des défis. Défi, c'est à la fois une situation, quelque chose que nous pouvons rencontrer. Et chacun de nous a un défi au regard de sa vie. Nous n'avons pas tous le même défi, mais chacun de nous a un défi. Le défi, elle est proportionnée ou bien elle peut être adaptée au regard de notre contexte, c'est-à-dire de là où nous vivons. Il y a des fois des défis qui ne sont attachés qu'au lieu où nous vivons. Il y a aussi des défis qui ne sont qu'attachés qu'à l'âge que nous avons. Les défis d'un enfant ne seront pas les mêmes défis d'un adulte, ne seront pas les mêmes défis d'une personne qui est déjà en âge avancé. Les défis aussi sont attachés non pas seulement à de là où nous vivons, mais nous avons aussi des défis qui peuvent être présents, comme nous avons des défis qui sont des défis d'avenir aussi. C'est-à-dire que chacun de nous, au niveau où il est, au regard de ce qu'il fait, peut rencontrer des défis. Nous pouvons rencontrer des défis au niveau des études, nous pouvons aussi rencontrer des défis au niveau du travail, nous pouvons aussi rencontrer des défis dans le mariage. Nous pouvons aussi rencontrer des défis dans le fiançailles. Nous pouvons aussi rencontrer des défis en étant célibataire. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que chacun de nous a un défi quelque part. Alors, face à ces défis, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à relever ces défis. Amen, amen. Nous ne sommes pas appelés à subir la problématique du défi, mais nous sommes plutôt appelés à relever le défi. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu avec nous. C'est la chose que, bien aimé, nous voulons garder en esprit. Et en tant qu'héritier, nous voulons parler des défis qui concernent l'héritier. C'est-à-dire que les défis qui concernent celui qui a cru en Jésus, les défis qui concernent celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Nous voulons plutôt nous appesantir sur cela. Alors, si c'est là... Si je suis d'accord technique, on peut me balancer la deuxième slide de la définition de défi des concepts. Merci. On s'est dit que le défi, c'est référé à des situations ou des circonstances difficiles, complexes ou stimulantes qui nécessitent des efforts, des compétences ou des ressources pour être surmontées ou relevées avec succès. Ça dit que l'objet de notre entretien ou de notre échange, c'est que nous voulons ensemble être capables de relever nos défis, mais avec succès. Amen, amen. Ce n'est pas simplement dire, voilà, j'ai une situation compliquée qui m'arrive,
Je restais là en train de pleurer. J'ai une situation qui m'assaille, j'ai une situation qui me tourmente. Voilà, je me dis, je me contente de cette situation. Non, mais plutôt, nous voulons, au travers de la parole de Dieu, trouver les éléments, trouver la force nécessaire pour relever les défis qui se présenteront face à nous. Que ce soit les défis présents ou les défis d'avenir. Amen, amen. En résumé, on s'est dit, lorsqu'on parle des défis, c'est une opportunité pour nous pour expérimenter une croissance personnelle. Mais pas seulement une croissance personnelle, mais aussi pour nous le moyen de nous approcher de Dieu et de savoir ce que peut faire notre Seigneur. Amen, amen. Ça dit que ne prenons pas seulement les défis dans le sens d'une situation compliquée, une situation, je ne sais lequel, mais prenons aussi les défis dans le sens d'une opportunité qui peut nous permettre à croître, à avancer, à découvrir une autre facette de notre Dieu. Alléluia. Je crois que lorsque nous regardons la parole de Dieu, la perte de sang pour la femme, le fait que la femme, cette femme puisse perdre le sang, était ça pour elle un défi qu'elle devait relever au regard de sa santé. Mais le fait qu'elle aille chercher des solutions a fait en sorte que dans sa quête de la guérison, elle a pu rencontrer le Seigneur. Amen, amen. Donc, ce défi a été pour elle aussi une opportunité de découvrir qui était réellement Jésus. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, oui, nous pouvons avoir des défis, mais sachant, frères et sœurs, que nous ne devons pas nous laisser abattre par les défis, mais nous devons plutôt chercher des solutions. On peut me donner la slide 4, s'il vous plaît? Alors, la slide 4, je vous ai mis ce schéma. J'essaie de concocter, comme on dit, de créer un peu ce schéma. Dans ce schéma, j'ai mis un peu les différents types de situations qui peuvent nous arriver. En partant du simple à l'impossible. C'est-à-dire que même dans notre propre vie, nous pouvons constater que nous avons des situations ou des défis qui peuvent nous paraître assez simples. Hein? Il y a des défis qu'on peut qualifier nous-mêmes de simples. C'est-à-dire que l'équation n'est pas si compliquée. C'est-à-dire que je me trouve un matin, quel est le défi? Bon, le défi, c'est de sortir et d'arriver au boulot à temps. C'est aussi un défi, non? Mais ce n'est pas un défi compliqué, c'est un défi simple. Pour arriver au boulot à temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réveiller plus tôt. Il faut être, pour ceux qui prennent le métro, il faut être à l'heure au métro. C'est pas à la gare. Pour ceux qui prennent le bus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être là peut-être 10 minutes avant, parce qu'on ne sait jamais, ça peut changer. Bon, il faut avoir un maps, être connecté pour voir en direct ce qui se passe. Donc, en fait, c'est un défi qui est simple. Ce n'est pas compliqué d'arriver au boulot à temps. Ouais, donc c'est simple. Ça dit qu'on peut le solutionner si facilement. Mais il peut y avoir aussi des défis qui peuvent être des défis difficiles. Ça dit que la ressource ou bien ce qu'il faut mettre pour résoudre ces problèmes, ça ne dépend pas que de ma volonté, mais ça dépend aussi d'autres aspects. Ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi des autres personnes. Ça devient difficile. Mais on peut avoir aussi des défis qui peuvent être chaotiques. C'est-à-dire que c'est une situation où lorsque tu regardes tout autour de toi, tu te poses mille et une questions. Tu te dis, mais là, vraiment, je n'ai pas de possibilités. Je ne sais pas comment m'y prendre. Mais il peut avoir aussi des défis qui sont pour nous comme des situations impossibles. C'est-à-dire que tu regardes l'homme, tu dis que l'homme ne peut rien faire au regard de cela. Tu regardes à tes relations, tu te dis que non, mes relations ne peuvent pas me permettre de solutionner ces problèmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce genre de situation dans la vie d'un chacun de nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Alléluia. C'est-à-dire que qu'importe la situation des défis, ça c'est la vision que moi et toi nous avons, la vision de l'homme. Nous avons une vision on peut nous-mêmes essayer déjà de donner une certaine stadification de choses que nous subissons. Ah, pour moi c'est simple, pour moi c'est chaotique, ah, pour moi c'est impossible. Mais ça c'est la vision de l'homme. Mais Dieu aussi a sa propre vision. Dieu a sa propre vision. Car nous savons que rien n'est impossible à lui. Alléluia. Ça c'est la vision de Dieu. Qu'il n'y a rien de possible pour lui. La vision de Dieu, ça dit qu'il est capable de faire au-delà même de ce que nous pouvons penser et ou imaginer. Amen, amen. C'est la vision de Dieu. Mais ça, c'est la vision de l'homme. Mais on regarde tous ces défis, frères. Nous ne devons pas nous rester là, nous dire que c'est fini pour nous. Nous devons plutôt regarder à celui qui peut tout, à celui qui est capable de solutionner. Voilà pourquoi la parole de Dieu, des fois, nous exhorte à ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Amen, amen. Dieu nous appelle à ne pas nous inquiéter. C'est-à-dire que même si ton défi, il est simple, il est difficile, il est chaotique, il est impossible, mais je sais, la parole de Dieu nous rappelle une chose, ne vous inquiétez de rien. Waouh, waouh, waouh. Mon Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous amène simplement à faire confiance au Créateur. Fais confiance au Seigneur. Tant qu'il y a encore du souffle dans ton corps, continue à faire confiance en Dieu. Amen, amen. Tant qu'il y aura encore la respiration, tant que tu pourras encore pousser un soupir, crois encore que Dieu est capable de faire une chose. L'histoire de Jonas nous le démontre. Il était là dans sa barque, jeté par-dessus bord, pris dans le ventre d'un poisson. Mais là, même dans le ventre du poisson, tant qu'il pouvait respirer, il était en train de parler à son Dieu. Vous vous rendez compte? Une situation peut dire impossible, vous pouvez dire, voilà, je suis dans l'abîme. Même l'expression qu'il utilise, c'est l'expression de quelqu'un qui se retrouve dans l'abîme, qui se retrouve loin de Dieu. Mais il parle encore au Créateur, il dit, c'est que je sais que je verrai ta gloire. Et le Seigneur, là, dans le ventre du poisson, écoute la prière de son serviteur et fait quelque chose. Amen, amen. Je ne sais pas quel peut être ton défi, mais qu'importe le défi que tu veux relever, qui se présente au devant de toi, qu'importe la stadification que tu peux donner de la vision humaine que tu as, sache qu'on a un Dieu dans le ciel qui est capable de tout faire. Alors on s'est donné quelques points, quelques défis, s'il vous plaît la slide suivante, quelques défis en tant qu'héritiers, nous nous sommes dit, le premier défi que nous en tant qu'héritiers nous sommes appelés à relever, c'est le défi de souffrir avec Christ. La slide 5. C'est le défi de souffrir avec Christ. Nous avons ce défi, bien-aimés, en tant que co-héritiers. C'est de souffrir avec Christ. Ce n'est pas le défi, frères et sœurs, que de relever des défis au regard de notre vie. Mais premier défi, bien-aimés, c'est de souffrir avec Christ. Alors, je vais chercher rapidement ce passage. J'espère que je vais le trouver. Le défi de souffrir avec Christ. Oui, nous voulons vivre beaucoup de choses avec le Seigneur. Nous voulons bénéficier de la bénédiction. Oui, Romains chapitre 8, 17 à 18, je veux lire, la Bible dit, or, Romains chapitre 8, 17, la Bible dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, j'aime bien la Bible, la précision que la parole de Dieu apporte, si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Voilà. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Oui, nous voulons être héritiers. Ah, je vais bénéficier l'héritage, la bénédiction, la guérison, le progrès, la sanctification, l'onction, l'impactation, tout ce qu'on veut. En tant qu'héritier, vous savez, lorsque vous êtes héritier, vous avez beaucoup de bénéfices. Mais la Bible continue à rajouter un élément que j'aime bien. Si toutefois, c'est-à-dire qu'il y a une condition, c'est-à-dire que celui qui veut être héritier doit aussi être en mesure de faire quoi? De relever les défis de la souffrance, les défis de souffrir avec Jésus, avec Christ. Ça, frères et sœurs, c'est hyper important. Mais beaucoup d'entre nous, des fois, nous voulons bien bénéficier de tout ce qu'on nous est promis dans la parole de Dieu. Tu seras la tête et non la queue. Tout ce que la parole de Dieu nous promet, nous voulons bénéficier. Nous le voulons, nous le croyons. J'ai dit, c'est une bonne chose. Amen. Il faut croire à cela, car c'est un droit pour nous. Mais n'oublions pas aussi un des devoirs, c'est de relever les défis de souffrir avec Jésus. Amen, amen. Relever les défis de souffrir avec Christ, ça peut être dans notre milieu de travail, à la maison, au boulot, je ne sais pas, ce que, au travers de ce que les amis peuvent dire. Voilà, accepte de porter cette marque de chrétien et ou de chrétienne. D'être réellement enfant de Dieu. En fait, ça, c'est souffrir avec Christ. Ça veut dire quoi? C'est accepter de rester droit pour Jésus. C'est accepter de honorer Dieu où que tu ailles, quoi que tu fasses. C'est accepter de faire partie de cette famille d'enfants de Dieu. Alors, nous avons aussi parlé des défis de lutter contre les tentations et les désirs charnels. Ça, c'est un défi quotidien. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce défi de lutter contre les tentations et les désirs charnels. Nous serons tentés, bien-aimés. La tentation sera présente. La tentation sera, bien-aimé, dans notre vie de tout le jour. Mais nous devons résister face à la tentation. Nous ne devons pas nous laisser avoir. Ça, c'est un défi. Même lorsque tu te réveilles le matin, tu viens à l'église. Même lorsque tu vas au travail, la tentation sera là. La tentation sous diverses formes. La tentation au niveau physique, la tentation au niveau moral, la tentation au regard des biens, la tentation par rapport à ce que tu aimes. Dans pratiquement beaucoup de domaines, il y aura une tentation. Mais face à la tentation, nous devons faire quoi? Nous devons lutter. Alléluia. C'est-à-dire, nous ne devons pas céder, nous ne devons pas nous laisser avoir. La tentation est là. La tentation sera permanente. Nous devons tenir bon. Nous avons aussi dit les défis d'affronter l'opposition spirituelle et les attaques de l'ennemi. Oui, il y aura l'opposition spirituelle. Parce que tu es enfant de Dieu. Toi, tu es de l'autre camp. Tu seras dans un milieu où toutes les personnes ne seront pas, ou bien ne seront pas appelées à être chrétiens. Chacun aura son obédience. Chacun aura sa culture spirituelle, si je peux employer ces mots. Ça dit que tu seras au devant de toi face à l'opposition pour certains sujets, pour certains domaines. Mais tu dois avoir la capacité d'affronter cela. Amen, amen. Ce n'est pas de battre en retraite. Ce n'est pas pour dire, bon, en fait, maintenant là, moi, je ne peux plus aller dans leur truc là parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Mais pendant qu'on a besoin de toi là-bas pour prendre des décisions. Mais si toi, maintenant, tu n'y vas pas parce que tu t'es dit, je n'ai pas la possibilité d'affronter ces choses. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu cèdes ton siège, tu cèdes ta place. Mais nous devons savoir avec nous, nous avons le plus fort. Lorsque tu vas affronter l'opposition, ce n'est pas toi qui te bats, en fait, c'est les plus que vainqueurs qui combattent pour toi. Et si c'est lui-même qui t'a amené dans ce cadre-là, il sait pourquoi il t'a amené là-bas. Tu n'es pas arrivé là-bas par tes propres forces. En fait, tu es un instrument de Dieu pour faire éclater sa gloire là face à l'affront, face à l'opposition. On a besoin de lire Ephésiens chapitre 6, 12. Et puis nous avons lu les défis de surmonter les doutes et les craintes concernant notre identité en tant qu'héritier de Dieu. Ah, ça j'aimerais vraiment insister. Nous sommes héritiers, mais beaucoup de gens, par moment, quand tu dis tu es héritier du Seigneur, ils se régalent moins avec cette situation. Quand tu dis tu es héritier du Seigneur, qui moi? Ah, mais non. Même quand il dit Amen, il dit seulement Amen par mouvement des masses. Amen, Amen. Mais en réalité, quand il se regarde elle-même et quand il se regarde, il dit, moi, vraiment, je suis hérité de Dieu. Ah, je n'ai pas raté quelque chose là. J'ai raté un épisode sur bon. Non, tu es héritière. Oui, c'est biblique. Tu es co-héritier avec Christ. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu fais partie du royaume. Tu fais partie du sacerdoce. Tu fais partie de ces peuples mis à part. Tu fais partie de cette race mise à part. Oui, tu es enfant de Dieu, donc tu es héritier, tu es héritière. Or, c'est un défi que nous devons surmonter tout le jour de notre vie. Pourquoi? Parce que les diables veulent nous faire comprendre que ce n'est pas nous. Or, que c'est nous. Alléluia. Par moi, les diables veulent te faire comprendre que ce n'est pas toi. Or, que c'est toi. Il veut faire ce qu'il a fait dans les jardins d'Eden. Le Seigneur donne une parole claire, mais il veut semer les doutes. Pour faire sortir notre théorie. Non, je te dis bien aimé que tu es enfant de Dieu. C'est bien toi. Qu'importe ce que tu es tenté d'observer tout autour de toi, mais c'est bien toi. Ce n'est pas les réalités des situations que tu vis qui doivent réellement déterminer si tu es héritière ou pas héritière. Amen, amen. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Ce ne sont pas les réalités de notre vie qui doivent nous faire accepter ou refuser si nous sommes héritiers ou héritières. Nous sommes héritiers ou héritières au travers du sang de l'agneau. Amen, amen. Ça, c'est un défi que nous devons surmonter tout le jour. Qu'importe ce que tu vis, qu'importe la situation par laquelle tu passes, j'aimerais vraiment te rassurer à comprendre une chose, que tu es héritière, que tu es héritier. Crois à cela et tôt ou tard, tu remarqueras les retombées de ta position en Christ. Je dis à quelqu'un, tôt ou tard, tu remarqueras les retombées de ta position en Christ. Parce que tu es enfant de Dieu. Alors nous avons fait un exercice s'il vous plaît. À quelle souffrance ou difficulté devez-vous faire face en ce monde? On s'est posé trois petites questions. On s'était dit, est-ce que nous passons par des difficultés? Si oui ou non. Mais là, on s'est dit, quelle est la difficulté que nous connaissons ces derniers temps? Que chacun de nous devait énumérer une difficulté. Une. Par laquelle il est en train de passer ces derniers temps. Alors, par rapport à cette difficulté que tu es tenté d'expérimenter ces derniers temps, la deuxième question était de savoir quelle parole vivifiante de la part de Dieu a touché ton cœur. Est-ce que as-tu reçu une parole de la part du Seigneur au regard de cette difficulté que tu es en train de connaître? Ça, c'était la deuxième étape. Parce que par moment, on peut connaître une difficulté. On peut se retrouver dans une situation où on n'a aucune parole de la part de Dieu. Où on n'a pas cherché. Où on a plutôt pris le temps d'aller regarder les oncles, les amis, les collègues. Mais est-ce qu'avons-nous eu le temps d'aller chercher dans la présence de Dieu une parole, un mot, un signe? Troisièmement, on s'est dit, quel sage conseil recevez-vous d'amis dignes de confiance? Est-ce qu'avons-nous reçu un conseil de quelqu'un, d'un ami, qui est digne de confiance? Cet exercice était simplement en train de nous permettre de comprendre les mécanismes bien. Les actions que nous pouvons entreprendre lorsque nous avons une situation difficile. C'est-à-dire, premièrement, il y a une dimension verticale, c'est-à-dire vers Dieu. Et il y a une dimension horizontale, c'est-à-dire vers notre semblable. Ce sont des ressources dont nous disposons, c'est-à-dire, regardons premièrement à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Voilà, j'ai une situation compliquée. Parler au notre Père. Faire connaître à notre Père nos inquiétudes, nos problèmes. Nous devons le faire connaître à notre Dieu. Oui, il connaît tout, mais nous devons au moins le parler. Quand Dieu appelle Abraham de quitter Ur, Mésopotamie, et qu'il vient avec son père, il dit, sépare-toi de ta famille, je t'indiquerai le chemin, je marcherai devant de toi, sois intègre devant ma voix, suis-moi. Mais le Seigneur savait pertinemment bien qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Alléluia. Mais il le savait. Et puis, du reste même, il vient et dit, je veux changer ton nom. C'est lui qui vient même changer le nom d'Abraham. Il savait la condition d'Abraham. Il n'est pas ignorant. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham parle à Dieu, je m'en vais sans un héritier. Amen, amen. Mais pourquoi Abraham ne s'était pas tué? Il pouvait dire, mais Dieu, tu connais, non? Mais Abraham au moins a parlé à Dieu. Alléluia. Et Dieu a répondu. Lorsqu'on parle à notre Dieu répond. Il répond d'une façon, tantôt d'une manière, coup comme de, mais notre Dieu répond. Dieu a répondu. Abraham ne s'est pas tué. Et Abraham a continué à insister à Dieu. Mais Seigneur, donne-moi un fils. Et le Seigneur a accordé. Voilà la relation verticale. Qu'importe les défis que nous vivons. Bien-aimés, parlons à Dieu. Tant qu'il ne t'a pas dit de t'arrêter, continue à parler à Dieu. Ne te fatigue pas. Tant qu'il n'a pas dit d'arrêter, continue. Tu vois comment ça dit, cette prière, ça devient même une récitation. Vous savez tellement que des fois, il y a des choses pour lesquelles on prie tellement trop qu'on a même récité des phrases. Ça devient comme une récitation. Seigneur Jésus, tant. Tu dis, mais Seigneur, je t'ai dit cette prière mille et une fois. Je suis même fatigué de dire. J'ai dit à quelqu'un, continue. Tant qu'il n'a pas dit non. Alléluia. Et c'est hyper important. Et quel sage conseil, c'est vraiment cette relation horizontale vers quelqu'un, vers qui on peut se confier. Ça peut être un homme de Dieu. Ça peut être le pasteur. Ça peut être un homme de confiance, ça peut être une personne vers qui on va souvent lorsqu'on a une situation compliquée. Ça peut avoir, c'est-à-dire que dans notre parcours ou bien dans notre capital social, nous devons aussi avoir des personnes comme ça. Amen, amen. Il faut toujours avoir aussi, je ne dis pas qu'il faut, mais c'est bien aussi d'avoir. Alléluia, je n'ai pas dit qu'il faut. C'est bien d'avoir aussi quelqu'un vers qui on peut s'approcher, vers qui on peut parler. Alors, là, on a parlé du défi, on a fini, et puis nous allons prendre rapidement maid association. J'espère que je vais finir ça. Maid association, c'est quoi la maid association? Nous sommes dit défi d'un héritier, maid association et procrastination. C'est quoi la maid association? Je prie cette définition. Dans la maid association, il y a deux mots, il y a la main et il y a association. Voilà, mais c'est deux gros concepts. On peut prendre une définition assez simple pour essayer de le définir. Je l'ai défini comme étant une association est un groupe organisé de personnes formées dans le but de promouvoir un intérêt commun. Des membres soit les regroupements de nos ressources et de nos dons pour un but précis. Donc, c'est juste un groupe, voilà, organisé des personnes formées dans le but de promouvoir un intérêt commun. C'est en fait ça, lorsqu'on parle d'association. Nous avons un intérêt commun, on se met ensemble, on veut le promouvoir. On veut organiser quelque chose. On veut atteindre un but. On veut se lancer dans un quelque chose. Alors, nous allons nous associer, nous allons le mettre ensemble. C'est un peu ça ce que les dictionnaires nous donnent. Alors, je développe ça en prenant deux aspects. Premièrement, nous avons la main. Lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, on peut prendre Psaume 115, le 7e verset, on va lire. Psaume 115, le 7e verset. Voilà, il est écrit 115, le 7e verset. Psaume 115. Voilà. Voilà. La Bible dit, elles ont deux mains et ne touchent point des pieds. Et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. On peut continuer. Et il leur ressemble ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. Continuons. Israël, confie-toi à l'Éternel. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. C'est quelle version ça? 8 secondes. C'est une autre version. D'accord. En gros, là, on demande juste une chose. Là, il était fait mention un peu des statuettes, de ceux qui font appel aux statuettes des dieux qui sont faits des mains d'hommes. Différemment de notre Dieu qui est dans le ciel, qui a la possibilité d'agir différemment de l'homme que nous sommes. Et c'est ce que nous devons retenir qui est d'une importance capitale. C'est-à-dire que là, il est simplement, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est David qui parle. Il dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne se sentent point. Elles ont deux mains et ne touchent point des pieds. Et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il ne leur ressemble ce qu'ils fabriquent, tout ce qui se confie en elles. Israël, confie-toi à l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Amen, amen. C'est pour nous dire simplement que nous avons un Dieu qui agit différemment des dieux des pharisiens, des dieux des philistins, des dieux des assyriens. C'était des dieux faits des mains d'hommes. Et lorsque nous parlons de la main, c'est le symbolisme en fait de l'action. Lorsqu'on parle de la main d'association, par là on veut faire montre quoi que c'est le symbolisme de l'action, la main d'association. C'est-à-dire que nous nous associons pour une action. Amen, amen. Nous ne nous associons pas juste parce qu'on a besoin d'être ensemble. On ne s'associe pas juste parce qu'on a besoin de se contempler. On ne s'associe pas juste qu'on a besoin de se regarder ou de s'admirer. Mais on s'associe pour une action. Et voilà pourquoi lorsqu'on parle de la main, la parole de Dieu démontre carrément la main de Dieu. Vous allez suivre souvent dans la parole de Dieu, il parlait de la main de Dieu. Et à chaque instant que la parole de Dieu faisait mention de la main de Dieu, ça dit qu'il y avait une action. Alléluia. Lorsque l'Éternel parle à Moïse, il dit la main de l'Éternel le forcera. Alléluia. C'est-à-dire que la main de Dieu va entrer, prendre une action. Lorsqu'on parle de la main d'association, c'est simplement nous amener à une dimension de l'action. Pas à une dimension de la passivité, pas à une dimension de la contemplation, mais à une dimension d'un dynamisme en fait. Nous devons nous mettre en action pour atteindre un objectif, promouvoir quelque chose. Nous comprenons que c'est un défi pour nous en tant qu'héritiers de Dieu. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous mettre en action, à nous associer pour entreprendre, à nous associer pour mettre un dynamisme, à nous associer pour concevoir, à nous associer pour construire, à nous associer pour monter, à nous associer, bien-aimés, pour nous élargir, à nous associer, bien-aimés, pour bâtir. Est-ce qu'on se comprend, frères et sœurs? On ne s'associe pas, bien-aimés, pour passer du temps ensemble. Non, non. Parce qu'on parle de la main d'association en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour concevoir, c'est pour mettre en place. Et ça, bien-aimés, nous devons le comprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et voilà le symbolisme de la main. On peut nous donner aussi Job chapitre, s'il vous plaît, Job chapitre 12, le 9e verset. Oui, Job chapitre 12, le 9e verset. Je veux voir. Je peux commencer à 8. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te les rencontreront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Alléluia. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute la chair. Alléluia. Il tient dans sa main. En réalité, c'est la main de l'Éternel qui a fait toutes choses. Alléluia. C'est la main de Dieu qui a fait toutes choses. Alors, voilà pourquoi je t'ai dit, lorsqu'on voit la main de Dieu, on voit l'action de Dieu. Et lorsque nous parlons de la main d'association, c'est-à-dire que nous nous associons pour une action. Nous nous associons, bien-aimés, pour une action. Et notre prière en tant qu'héritier de Dieu, c'est que nous puissions nous associer pour des actions. Alléluia. Pour des actions. Et lorsque je parle des actions, il n'y a pas un domaine qui nous est interdit. Il n'y a pas un domaine où on va dire non, là-bas, on peut. Non. Nous devons nous associer pour des actions en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Pour des actions. Pour des actions qui doivent répondre à des besoins. Est-ce que je me fais expliquer? Pour des actions qui doivent répondre à des besoins. À des besoins. Alors, quand je parlais de l'association, l'association met en évidence la coopération, le partenariat. En gros, la communion fraternelle. Lorsque vous allez dans le mot étymologique, tout ce qui va brûler, consort, lorsque même vous lisez les commentateurs, lorsqu'on parle de la main d'association, on fait vraiment montre de cette communion fraternelle. C'est-à-dire que les gens mettaient ensemble, même quand vous voyez les apôtres au début de l'église, ils mettaient ensemble le bien, ils mettaient ensemble leurs ressources, de telle sorte que personne ne manque de quelque chose. Alléluia. Pour soutenir la mission qu'ils avaient à entreprendre. Alors, dans notre deuxième point, on s'était dit que nous allons parler des conditions d'une bonne main d'association. Alors, avant de mettre cette slide, je vais passer les questions. Avant de mettre la deuxième slide, on va poser la question dans l'assemblée. Bon, d'après vous, quelles sont les conditions pour avoir une bonne main d'association? Peut-être on va même passer les slides. Si vous donnez les réponses, on passe. Moi, je donne seulement les passages, je veux qu'on évolue. D'après vous, pour avoir une bonne main d'association. Oui. Bon, on va me dire qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Les micros. Maintenant, les micros. Karen, tu peux aider. Tu peux aider maman pour le micro, s'il te plaît. Oui, merci.
Oui, vous l'avez dit dans la définition. Hein,
ouais.
Il faut que les membres, les gens qui se mettent ensemble aient un même objectif.
Ok.
Une volonté de participer activement à la recherche de ce but et commun.
Si, quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Ma soeur, tu t'appelles comment? Benita, tu veux rajouter quelque chose? La patience. Ok. Tu peux donner un micro? On va dire, les gens qui sont dans le... Oh, la famille qu'on était va dire, on n'entend rien. On va mettre les micros. Oui, vas-y.
J'aurais dit la patience parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas faciles à faire des affaires avec eux. Et souvent, il faut vraiment supporter, avoir un grand cœur et vraiment de la patience.
La patience.
Oui.
D'accord. Dernière intervention. Oui, maman Cheryl.
Il faut avoir les finances.
Il faut avoir les finances. J'aime bien quelqu'un qui me disait toujours, celui qui paye donne le temps. Merci. Voilà. Voilà, vous avez tout dit. Hein. Alors moi, je vais simplement appuyer ce que vous avez dit par les passages bibliques. Ok, on va prendre alors les slides. Voilà, vision, objectif clair. Galates 2.9, on peut lire ensemble. Galates chapitre 2.9. On va lire là-bas. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, ça c'est l'apôtre Paul. Galates 2.9. La Bible dit, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, sont regardés comme des colonnes et donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers le païen et eux vers le circoncis. On peut continuer le passage qui suit, s'il vous plaît. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir de pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. C'est l'apôtre Paul qui parle. Lorsque vous remarquez déjà dans ces passages rencontrent tout ce que nous avons dit ici. Premièrement, les passages mettent en évidence la vision en fait. L'objectif. Et cette vision, cet objectif bien aimé, se passe déjà au travers de ses disciples. Là, il s'agit de Paul, il s'agit de Pierre, il s'agit de Jean. Qui est simplement le désir de permettre à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de le connaître, de le rencontrer, d'achever ou bien d'accomplir la mission de Christ. C'est simplement ce que nous démontrent bien aimé ces passages. Et l'apôtre Paul le dit si bien que cette main d'association était faite de la part de Pierre, de Jean et de Jacques au regard de Paul et de Barnabas. C'est-à-dire que les trois travaillaient déjà, ils étaient là. Mais ils ont remarqué, voilà, que voilà, on peut s'associer aussi à celui-ci, à l'autre. Pourquoi? Parce que nous travaillons tous vers un même objectif. Voilà pourquoi nous avons parlé, bien aimé, des visions et d'objectifs clairs. On ne peut pas s'associer aux gens si on n'a pas la vision et l'objectif. Si on ne sait pas, il s'agira de quoi? On ne peut pas s'associer. Pour que je vienne donner ma main d'association pour une action, il faut que j'aie un but ou un objectif à accomplir ou à atteindre. Mais l'objectif que je partage doit être aussi l'objectif de la personne avec qui je veux m'associer. C'est-à-dire que nous devons avoir un objectif commun en fait. Notre vision, nous devons partager la même vision en fait. Parce que si nous ne partageons pas la même vision, ça sera très compliqué que nous puissions nous associer. Et c'est la première des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il devait avoir un objectif et vision claire. Et c'est là hyper important. Voilà pourquoi, lorsqu'on nous demande de nous associer dans quelque chose, nous devons comprendre c'est quoi la vision. Alléluia. Est-ce que je parle au peuple de Dieu? Lorsque nous voulons faire même quelque chose à l'église, nous devons comprendre on veut le faire. Pourquoi? Est-ce qu'on se comprend? Apparemment, il y a des gens qui, tu vois, te retrouvent en train de faire quelque chose à l'église. Ils ne comprennent pas, ils le font pourquoi. Maintenant, tu dois comprendre la vision. Qu'est-ce qu'on on veut faire cette histoire ici? C'est pour quel but? Pourquoi? Dès lors que tu n'as pas compris la vision ni l'objectif qu'on veut atteindre, sûrement tu feras mal. Je ne sais pas si je parle bien.
Voilà pourquoi même à l'église, même au travail, même dans notre vie de tous les jours, il est important que tout le monde comprenne c'est quoi la vision. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire? D'où c'est le rôle de chacun de nous lorsqu'on s'associe. Nous sommes à l'église, oui, nous sommes à la bonne Bruxelles. Nous voulons faire ceci, mais il faut que chacun de nous, de façon personnelle, se rassure d'avoir compris la vision. Du moment où nous ne comprenons pas la vision, nous devenons, si je peux dire, pas des pierres d'achoppement, mais nous devenons des personnes qu'on doit porter ou qu'on doit tirer. Parce qu'on n'a pas compris. Alors, la responsabilité, elle est de part et d'autre. Elle est de la part de celui qui fait partie de la corporation, de faire un effort de comprendre. Et la responsabilité, elle est aussi de celui qui explique la vision. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que nous avons tous une responsabilité partagée. Par exemple, si on est dans une église et que l'église veut faire quelque chose et que l'église annonce on va faire ceci, il est important aux membres qui font partie de l'église d'arriver à comprendre de quoi il s'agit. Et poser même les questions, d'aller chercher les responsables en question. Voilà, explique-nous, on veut faire au fait quoi? Parce que les dynamismes ou l'intégration, ou l'acceptabilité, ou les déploiements, dépendant de la façon dont on a compris. Si on comprend mal, on fera peut-être mal. Amen, amen. Donc la vision doit être claire, frères et sœurs. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans tous nos domaines, nous devons arriver à comprendre de quoi il s'agit. D'où il est la responsabilité de chacun de nous de savoir de quoi il s'agit. Alors Galates nous démontre clairement que ces hommes étaient associés parce qu'ils avaient tous un but précis. C'était de répandre l'évangile de Christ. Mais en répandant l'évangile de Christ, c'était le but majeur. Mais chacun devait faire en fonction, bien aimé, de sa particularité. Voilà pourquoi j'ai dit le deuxième point, c'est connaître et reconnaître la particularité des collaborateurs. Alléluia. Le deuxième point, une bonne condition. Pour une main d'association, c'est de connaître et de reconnaître la particularité des collaborateurs. C'est-à-dire que moi qui viens vers toi, je dois être capable de faire quoi? De connaître d'abord ta particularité. Lorsque l'apôtre Pierre ou Jean-Jacques arrivent vers Paul, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu eux-mêmes déjà la particularité de Paul. Alléluia. C'est qu'ils savaient que non, celui-là, il prêche l'évangile, certes, mais il s'adresse plus aux païens. Amen. Et nous, nous allons vers le juif. C'était ça sa particularité. C'est-à-dire qu'il faut arriver d'abord à connaître. Par moment, nous voulons nous associer aux gens, mais nous n'avons pas pris le temps de connaître leur particularité, ni de connaître leur force. Est-ce que je parle à quelqu'un? On veut s'associer à quelqu'un, on veut travailler avec quelqu'un, mais on ne peut pas prendre le temps de connaître qui il est réellement. Mais en fait, il fait quoi? Il faut prendre le temps de connaître la personne. Connaître ce qu'il est. Et nous, en matière d'église, pour connaître la personne, par moment, c'est les témoignages. Alléluia. Parce qu'il y a toujours un témoignage. C'est-à-dire que si la personne, on la rencontre aujourd'hui, on va peut-être demander, en termes d'église, voilà, quel est son témoignage. Voilà, tu as travaillé au pied de qui? Voilà, qui est ton père spirituel? Voilà, on aura besoin du témoignage. Dans les entreprises, vraiment, ce qu'ils font, ils vont te demander une attestation des services rendus où tu as travaillé, tes attestations des services. Ils peuvent même aller au plus tard, même voir, même demander l'extrait du casier judiciaire, n'est-ce pas? Mais pourquoi on demande ça, au fait? C'est pour connaître qui est la personne. Et par moment, on peut aller au-delà, pendant les interviews, on peut poser d'autres questions pour savoir, ouais, t'as fait quoi, on va regarder ton CV. Tous ces éléments-là, en fait, c'est parce qu'on a besoin de connaître la personne. Alléluia. Parce qu'on veut s'associer avec lui. On veut travailler avec lui. Nous, il faut connaître cette personne. Connaître sa particularité. Connaître qui il est. Au-delà de cela, il y a une dimension qui est de reconnaître aussi. Parce que par moi, on peut connaître, mais on ne reconnaît pas. Je ne sais pas si je parle bien. Par moi, on peut connaître, mais on ne le reconnaît pas. Je connais qu'il fait ça, mais je ne le reconnais pas. C'est-à-dire qu'arriver à une dimension, je connais qu'il fait ceci, mais je reconnais aussi qu'il est capable de le faire. Ça, c'est une deuxième étape. C'est-à-dire qu'on peut connaître
que la personne soit informaticien. Mais je ne reconnais pas qui le fait. Je peux connaître ses papiers, mais je ne reconnais pas cela. Ça, c'est une autre dimension. Voilà pourquoi j'ai dit, il est important de connaître et de reconnaître la particularité des collaborateurs, la particularité des personnes avec qui on veut collaborer, la particularité des personnes avec qui on veut s'associer. Et ces passages nous démontrent assez de façon équilibrée, si je peux le dire ainsi, la particularité de Paul et de Pierre. Lui-même le dit clairement, il dit, ceux qui sont le plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont le plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié, pour les incirconcis comme à Pierre, pour les circoncis, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre de païens. Ils avaient déjà reconnu. Et voilà pourquoi ils ont donné la main d'association à l'apôtre Paul et Barnabas, parce qu'ils avaient reconnu cette particularité en lui. Donc, bien aimé, il est important, nous qui voulons nous lancer dans les actions, de savoir connaître et reconnaître la particularité qu'ont les personnes qui sont tout autour de nous. Si nous ne connaissons pas cela, nous devons faire un effort, bien aimé, d'arriver à connaître et à reconnaître. Une étape. Troisième point, c'est poursuivre un intérêt. On ne peut pas s'associer, bien aimé, si on n'a pas un intérêt qu'on poursuit. On a tous un intérêt. Pourquoi vous venez à l'église? Pourquoi on vient à l'église? Question directe, hein? La famille connectée, pourquoi vous venez à l'église? Dites-moi, pourquoi vous venez à l'église? À la technique, pourquoi on vient à l'église? Pourquoi nous venons à l'église? Dites-moi, quel est l'intérêt à ce que nous venons ici? C'est une question compliquée. Piège? Non, je ne fais pas de piège. Pourquoi vous venez à l'église? Ben, pourquoi tu viens à l'église? On peut répondre oui. Sœur Karen, dans le micro.
Moi, je viens à l'église pour être un avec la famille chrétienne. Mm-hmm. Deux, pour apprendre, par exemple, ce soir, pour apprendre la parole. Mm-hmm. Et voilà.
Merci, oui. Très bonne réponse. Quelqu'un d'autre veut rajouter? Karen, tu réponds quoi? Pourquoi tu viens à l'église?
Pour rendre un culte agréable à Dieu et aussi venir à l'église. On parle du dimanche là?
Non, je parle de l'église.
Oui. Je sais pas, c'est comme de l'essence à notre moteur. Mm-hmm. Vu tous les défis qu'on peut avoir dans la semaine et tout ça, quotidiennement.
Ok. C'est-à-dire que vous avez tous donné des très bonnes réponses. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt. S'il n'y avait pas cet intérêt-là, vous n'allez pas venir à l'église. C'est parce qu'il y a un intérêt. Donc moi, j'y vais, c'est parce que j'ai un intérêt. En fait, c'est ça même quand on veut s'associer. C'est parce qu'on doit avoir un intérêt. Si on n'a pas d'intérêt, on ne va pas s'associer. Voilà pourquoi tu peux commencer à dire à quelqu'un, viens, tant qu'il n'aura pas d'intérêt, ça ne sert à rien. Il faut susciter l'intérêt dans son cœur. Alléluia. Et la personne qui sait susciter des fois l'intérêt dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui sait susciter par moment l'intérêt. Tu sens que le Saint-Esprit t'a dit de convaincre quelqu'un. Je commence à sentir ces derniers temps, j'ai besoin d'aller à l'église. J'ai besoin. Et par moment, c'est soit nous qui pouvons susciter l'intérêt, ou le Saint-Esprit lui-même peut susciter l'intérêt, ou la personne elle-même, en ayant fait une observation, se rend compte que non, j'ai un intérêt. J'ai quelque chose que je dois trouver là-bas. J'ai quelque chose que je dois rencontrer là-bas. Alors non, je dois y aller. Matthieu 19, 27. Est-ce que vous pouvez nous donner ça, s'il vous plaît? Donc nous nous associons, bien aimés, les bonnes conditions pour une bonne association, bien aimés, c'est aussi trouver de l'intérêt. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Alléluia, j'aime l'apôtre Pierre. Il dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, mais en fin de compte, quand sera-t-il pour nous? Et j'aime les discours de Pierre. Vous savez, Pierre parle au pluriel. Regardez, Pierre ne parle pas pour lui seulement, mais il parle pour tout le groupe. C'est un chef ça.
Il parle pour tous les groupes. Donc, il se présente au moins que non, voilà, c'est moi qui prends la parole pour tout le monde. Nous avons tout quitté, mais quand sera-t-il pour nous? Donc, frères et sœurs, il est important de comprendre ces choses. C'est-à-dire, nous devons poursuivre un intérêt. Lorsque tu quittes chez toi, tu viens le dimanche à l'église, tu dois venir pour un intérêt. Est-ce qu'on se comprend? Je ne vais pas parler des intérêts humains, je parle des intérêts spirituels d'abord. Viens, comme l'a si bien dit, rencontrer Dieu, expérimenter quelque chose, bénéficier de, voilà, d'une visitation, voir Dieu se manifester, un intérêt. À chaque instant que tu te revois le matin, je vais à l'église, viens avec intérêt. J'ai dit à quelqu'un, viens avec intérêt, sois capitaliste dans la présence de Dieu. Permettez-moi les termes. Je vais utiliser des termes assez forts. Mais sois capitaliste dans la présence de Dieu. C'est-à-dire capitaliste la dimension spirituelle de la présence de Dieu. Amen, amen. Tu dois avoir un intérêt. Ne viens pas comme tout le monde. Non, viens avec intérêt. Ne va poursuivre intérêt. Et Pierre n'a pas eu du mal à les demander à Dieu. Mais regardez, Jésus-Christ répond. Jésus-Christ réagit à cette réponse. Donne une réponse. Si vous êtes toujours avec moi, la communication, s'il vous plaît. Toujours Matthieu 19, 27, donnez-moi la suite, verset 28. Et Christ, au regard de cette demande de Pierre, il ne s'arrête pas à regarder, mais il réagit. Il dit, Jésus lui répond, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au revêtement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous, écoute bien, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen, amen. Notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu suis Dieu, mais Seigneur, je te suis, mais c'est comment? Oh, mais il faut parler, il faut parler. Il faut parler. Moi, à un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, non, entre nous vraiment. Je te sers, je te parle de toi, mais c'est comment? C'est comment cette affaire? C'est comment? Dieu rémunère, bien-aimé. Amen, amen. Alors, il faut oser. Je ne vais pas dire oser, mais il faut le parler. Il faut lui dire. Il faut prier. Et si on continue, s'il vous plaît, nous pouvons continuer au verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Alléluia. Voilà la meilleure encore des récompenses qu'elle a, la vie éternelle. La vie éternelle, alléluia. Ça, c'est encore des acquis que nous avons en revenant, en étant dans la présence de Dieu. Donc, poursuivre un intérêt. Les bonnes conditions du même association, une vision claire. Connaître, reconnaître la particularité des collaborateurs. C'est important. Poursuivre un intérêt. Quatrièmement, la volonté de Dieu. Alléluia. Pour s'associer à des hommes et des femmes bien-aimés, nous devons connaître aussi la volonté de Dieu. Ah, là. État d'âme. On va me parler d'état d'âme. État d'âme. Des fois, nous, les Congolais. Pardon. Des fois, nous, les chrétiens, on se bloque avec cette histoire-là d'état d'âme. Mais écoutons d'abord cette histoire de volonté de Dieu. Il est important, même en tant qu'enfant de Dieu, connaître aussi la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas que Dieu est favorable à toute association. Ce n'est pas aussi que Dieu est favorable parce qu'on doit s'associer pour entreprendre une action qui sera favorable. Oui. Non. Il faut aussi connaître la volonté de Dieu. Ça veut dire que même si on veut s'associer pour de bonnes choses qui paraissent honorables, qui paraissent grandioses, qui sont des très belles actions, qui peuvent promouvoir tout ce que vous voulez théoriquement sur papier, le projet, mais aussi, demandons la volonté de Dieu. Alors, nous allons prendre une histoire. 1 Roi 22, le deuxième verset au sixième, le deuxième. 1 Roi chapitre 22, le deuxième au sixième. Je vais vraiment faire un effort de. Voilà, 1 Roi 22, 2 à 6. On peut lire sous vos pieds. Voilà. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre de main du roi des Syries. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple. Waouh, les gars, il était vraiment audacieux. Il était tellement sûr, les gars. Mes chevaux comme tes chevaux. Écoutez la suite. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte. Je reprends ce passage. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Continue. Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. On peut s'arrêter là-bas, on va revenir. Donc vous voyez, là c'est le roi Akab, roi d'Israël, qui demande la main d'association de son frère, le roi Josaphat, qui est le roi de Juda. C'est-à-dire, vous savez, avec les chiistes, tout ce qu'il y a eu avec Israël, il a été séparé en deux. Les 10 tribus étaient de l'autre côté, 2 tribus de l'autre côté. Donc, il y a eu scission après le règne de Salomon avec tous les désordres qu'il y a eu. Vous pouvez lire roi, vous pouvez lire chronique. Oui, je sais, maman. Vous pouvez m'accorder 5 minutes aujourd'hui, s'il vous plaît. Parce que je vais déborder des 5 minutes. Okay, voilà. Et alors, au regard de cette séparation, maintenant, il y a un problème. Il y a un territoire qui fait partie des villes de refuge. Lorsque vous allez lire un peu, vous allez tomber à Ramoth, faisait partie des villes de refuge. Mais qui était entre les mains des envahisseurs. Alors, Akab s'est dit, mais ce n'est pas possible. On doit récupérer, c'est notre terre. Dieu nous avait donné de conquérir. Là, maintenant, je parle un peu à la manière de la conquête. C'est notre terre. Nous avons conquis cette terre. Ça vient de nous. C'était une bénédiction qui venait de notre Dieu. C'est notre promesse. Nous devons bénéficier de cela. En réalité, c'était légitime. Amen, amen. C'était vraiment légitime d'aller récupérer ces territoires-là. Parce que c'est un territoire qui appartient à Israël. Alléluia. C'était leur terre. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est-à-dire que la proposition d'Akab, en termes de légitimité, était correcte. C'était un territoire qui appartenait à Israël. Ça n'appartenait pas aux envahisseurs. Donc, ils avaient tout le plein droit de s'élever, d'aller les récupérer. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si on veut mettre cette proposition sur papier, on dira qu'il avait raison. Ah, mais moi, je veux commencer à me moquer de, mais vraiment, vous autres, vous avez des armées, vous servez à quoi? C'est votre terre, vous devez le récupérer. Sur papier, l'association était correcte. Mais le problème, c'est lequel? Oui, sur papier était correct. Mais Josaphat dit, attends, mais consultons quand même l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit, parmi les bonnes conditions d'une bonne main d'association, il faut aussi connaître la volonté de Dieu. Même si le projet paraît clair, paraît correct, paraît légitime, c'est notre droit, c'est notre devoir. Consultons l'Éternel. Amen, amen. Parce que dans cette histoire, si même moi j'étais contemporain, j'étais là, j'allais dire, mais écoutez, mais les gars, on perd du temps. Allons reprendre notre terre. Et puis en plus, c'était une ville de refuge. Ça a toute une histoire. Ah. Mais lorsqu'ils vont consulter le Seigneur, il y a un prophète qui vient qui s'appelle Miché. Lorsque Miché arrive, bien aimé, il prophétise, il dit, est-ce qu'on peut continuer s'il vous plaît? On parle là où Miché parle, je ne sais pas si c'est à 8 ou à 9, je ne sais plus. Toujours dans 1 Roi 22, 6, 9, 6, 2 à 6. Essayez de nous trouver ça, s'il vous plaît. Lorsque Miché arrive, Miché parle de façon, bien aimé, à ne pas encourager le roi ni le peuple d'y aller. Il n'a pas un langage qui peut encourager le roi. C'est un roi plutôt, qu'est-ce que je dis? Il n'a pas le langage qui peut encourager le roi de monter avec sa troupe. Il n'a pas ce langage-là. Plutôt, il emploie un autre langage. Et le roi se décourage. Voilà, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait considérer l'Éternel, mais je le hais. Oh my God. Vous savez, quand je vois ces rois, je me dis, c'est comme aujourd'hui, quand on vient prêcher la sanctification, on dit aux gens des vérités, ah, moi, ce pasteur-là, pasteur, il a condamné. On dit quoi? Il était à condamnation. Il était à condamnation. Des fois, des gens n'aiment pas qu'on dise certaines vérités. C'est ce que nous vivons dans notre époque. Beaucoup de gens, lorsque tu commences à parler des vérités, oh, coucher, c'est un péché, oh, go faire ceci, c'est un péché, ah, les gens ne vont plus t'apprécier. Ils vont même pas, quand ils te voient même sur YouTube, on te zappe, chou! Chou! Non, lui là, il me fait des migraines dans la tête. Mais c'est la vérité. Alors c'est comme Michel aussi à cette époque-là, il disait la vérité. Voilà, Josaphat les haïssait. Plutôt Akab le haïssé, il dit, il ne prophétise rien de bon, il ne me prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Shima. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. On peut continuer, s'il vous plaît, j'aime bien cette histoire. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Miché, fils de Shima. On peut y aller. Voilà. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Tous ces quatre, c'en avait fait ce qui est dur du bon. On continue, s'il vous plaît. C'est des chasses, fils de Canaan, c'était fait des cornes de fer. Voilà, il y a même quelqu'un qui a fait une illustration. On peut sauter, passons à 12, je cherche l'homme, Michel va parler. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth, Gala, tu auras du succès, l'Éternel est livré entre les mains du roi. Nous continuons, 13. Les messagers qui étaient allés appeler Michel lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord. Écoute maintenant, influence. La personne qui doit venir parler, on lui influence déjà. Écoute, tous les prophètes ont dit ceci. Des fois dans notre monde, nous sommes des gens qui veulent que tout le monde s'aligne vers une tendance. Vous allez voir quelqu'un même, il pense pas comme ça, mais tout le monde, il faut qu'on se mette en accord. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Nous continuons. Oh, on a besoin de tels hommes aujourd'hui comme Miché. Miché répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Nous continuons. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel livrera entre les mains du roi. Nous continuons 16. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? C'est-à-dire que lui met en quête du nom de l'Éternel la vérité. Nous continuons. 17. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. C'était clair. Dispersé sans maître. C'est-à-dire que Michel était venu démontrer au roi que si tu manques là-bas, tu vas perdre. Lorsque vous continuez la suite, vous allez comprendre que c'était un message clair que tu vas perdre. Mais le roi n'a pas voulu. Lorsque vous lirez la suite, prenez le temps de lire. Nous allons reparler de ça le mercredi prochain, ces passages. Nous allons les décortiquer. Lorsqu'il va sur le champ de bataille, il s'est fait même déguiser. Et il y a un soldat qui tire la flèche au hasard. La flèche l'atteint. Et Akab succombe de ses blessures. Amen, amen. Nous ferons la bien-aimée. Que l'association était une idée géniale. Le but qu'ils poursuivaient était légitime. Le contexte dans lequel ils se trouvaient était bon. Nous pouvons tous appuyer. Parce qu'il s'agissait d'une vie d'Israël. Mais Dieu n'était pas d'accord. Amen, amen. Nous devons, bien aimé, même avant de nous associer, nous devons connaître la volonté de Dieu. Et Josaphat s'est retrouvé dans le pétrin. S'est retrouvé dans une situation très compliquée. Pourquoi? Parce que maintenant, tous les militaires, tous les ennemis étaient en train de l'attaquer, lui. Et heureusement pour lui, il a crié. Ils se sont rendus compte que non, ce n'est pas Akab. Vous savez, j'ai compris que non, les leaders, il y a beaucoup de gens qui connaissent la voix des leaders. Parce qu'il s'est vu qu'il a crié, on a dit non, 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 ça, c'est pas Akab. Donc, on connaissait même la voix d'Akab. Comme pour vous dire, bien aimé, parmi les conditions d'une bonne main d'association, d'action, il nous suffit pas seulement d'avoir une vision, de connaître et de reconnaître la particularité que Dieu met dans les personnes qui sont tout autour de nous. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître quelle est la vision, quelle est la chose que nous voulons entreprendre, de poursuivre un intérêt, de connaître aussi la volonté de Dieu. Alors, pouvez-vous me donner les slides qui suivent, s'il vous plaît? Je vais juste introduire. Et prochainement, nous allons décortiquer sur ces slides. Nous allons décortiquer ces slides. Ça fait partie aussi d'une des conditions. Nous allons parler vraiment, parce que le temps ne va pas me permettre, nous allons parler largement là-dessus. C'est un des éléments fondamentaux et un des éléments importants pour nous permettre de faire montre d'une association qui doit être efficace. Amen, amen. Donc je vais m'arrêter par là. Alors on va prier courtement. J'ai encore mes 5 minutes. Il est 20h juste. Mes 5 minutes, ça sera pour les questions. On va prier. Demander à Dieu, Seigneur, nous voulons nous associer, nous voulons faire des bonnes actions. Nous voulons faire des actions qui peuvent nous permettre à aller de l'avant. Mais c'est un défi pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Oui, nous écoutons la parole, mais il y a le monde. On a passé un temps pour parler d'entreprendre en Christ. Mais pour entreprendre en Christ, on doit s'associer avec des gens. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des domaines, bien-aimés, qui sont encore déserts. Il y a des domaines dans lesquels, en tant qu'enfant de Dieu, on peut s'associer, investir, faire des choses. On peut, parce que nous sommes la lumière. On ne doit pas que venir dimanche, chauffer des bancs, partir, être... Non, il y a des choses qu'on peut faire. Et pour cela, bien-aimés, nous avons besoin de nous mettre, de connaître, d'avoir une vision, d'avoir un intérêt, de connaître la volonté de Dieu, de reconnaître et de connaître les qualités des hommes que Dieu place au devant de nous. Mais au-delà de ça aussi, de relever des défis en tant qu'héritier. Est-ce que tu peux prier pour ces quelques éléments? Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Regarde ce que tu me dis, de comprendre quelle est ma posture. Qu'est-ce que moi aussi je peux faire? Voilà, qu'est-ce que je peux entreprendre? Qu'est-ce que je peux projeter? Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Qu'est-ce que Dieu nous prie? Thank you.